Bah, Michel Bernard, qui est le fondateur de la revue Silence, qui la porte à bout de bras, revient une tâche, me semble-t-il, difficile, celle de parler d'une sobriété de vie en ville. C'est vrai qu'on associe toujours, dans nos esprits et dans nos images, cette sobriété de vie, cette nouvelle frugalité, ce mode de vie différent à la campagne. Et alors, en ville, comment est-ce qu'on fait? Ça m'a l'air beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, en général, on se gausse des gens de la ville en disant qu'ils sont bien incapables et infichus, un peu comme les régimes alimentaires, ça y est.
Je ne suis pas un défenseur de la ville, mais on m'a demandé de parler de comment on pouvait vivre simplement en ville, puisque je vis en ville.
Simplement. Mais,
voilà. Alors, je voudrais commencer par expliquer moi, la différence que je fais entre simplicité volontaire et décroissance, parce qu'il y a eu beaucoup d'interprétations, donc je vais essayer de faire ma définition parmi d'autres. Pour moi, la simplicité volontaire, c'est la démarche individuelle, et la décroissance, c'est la démarche collective. Donc, on a beaucoup. Enfin, le problème, c'est l'articulation entre les deux, puisqu'il y a des gens ici, j'ai entendu, qui disaient qu'il fallait faire uniquement de la décroissance, en faisant un grand mouvement mondial de boycott, ou en faisant des actions politiques, ou en faisant des livres, en faisant des colloques. Et puis, il y a d'autres gens qui ont dit non, ce qu'il faut, c'est le plus important, c'est de faire sa démarche individuelle dans son coin, et puis ça changera le monde par cette méthode. Alors, pour les gens qui pensent qu'ils vont changer la méthode tout seuls dans leur coin, et qui pensent parce qu'ils ont renoncé à la voiture et un certain nombre de choses qu'ils vont pouvoir s'en sortir, je leur donne qu'un seul exemple. Actuellement, pour fabriquer des maillons de chaîne pour les vélos, il n'y a que 2 fabricants dans le monde, et ils sont tous les deux en Inde. Donc ça va être très dur, parce que si vous voulez renoncer absolument à tout ce qui dépend des multinationales, même le vélo, ça ne marche pas. À l'inverse, pourquoi la décroissance toute seule, sans la simplicité volontaire, ne marche pas? Actuellement, il y a 50% de gens qui ne vont plus voter. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont plus voter? Parce qu'à force d'entendre parler Jacques Chirac, qui est le premier écolo de France et qui fait systématiquement le contraire de ce qu'il dit, et que c'est comme ça pour tous les hommes politiques à peu près, eh bien évidemment, on n'a aucune cohérence entre le discours et la pratique. Donc je pense que de la même manière, si on veut faire progresser l'idée de la décroissance, qui est donc un problème politique, il faut absolument qu'on soit cohérent et qu'on commence par changer nous-mêmes. Donc il faut effectivement les deux, il faut penser les deux en même temps. Alors pour penser les deux en même temps, il faut disposer de temps. Et grâce à la machine et au discours sur le progrès, vous savez tous que vous avez plein de temps libre, il n'y a absolument aucun problème. Et la meilleure preuve, c'est les chiffres de l'INSEE qui nous disent que le Français moyen, donc 98% des gens ont la télévision, et en moyenne, ils la regardent 25 heures par semaine. Donc, effectivement, nous avons un temps libre pour penser qui est absolument extraordinaire. Le problème de ces 98% de la population, c'est que ce n'est pas eux qui pensent, c'est la télé qui pense pour eux. Donc, moi, je me trouve dans les 2% qui pensent par moi-même, et je pense que la première chose à faire, quand vous voulez essayer de réfléchir à la décroissance, c'est déjà d'arrêter le bouton de la télé si vous avez encore la télé chez vous. Si vous n'avez pas encore assez de temps, vous pouvez aussi arrêter d'écouter France Culture, sauf le dimanche matin de 7h à 8h.
Samedi, c'est samedi. Merci pour la tentative de pub quand même.
Ce que je ne fais pas. Également, on perd beaucoup de temps à lire les journaux et à lire des tas de bêtises dans les journaux, ce qui n'a absolument aucun intérêt. Je vous conseille de lire des hebdomadaires, ou mieux des mensuels, c'est quand même nettement plus intéressant que de lire le quotidien.
Ah non, ne.
Vous en pensez ce que vous voulez. Moi, je vous donne une méthode. Vous la faites comme vous voulez. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a utilisé, je crois que c'est Serge Latouche, qui a utilisé le terme de cercle vertueux. Donc, effectivement, pour rentrer dans un cercle vertueux, qui est un phénomène qui permet d'aller de plus en plus loin dans la démarche qu'on engage, effectivement, il faut trouver des portes d'entrée. Donc, déjà, arrêter la télévision, ça vous donne du temps. Je pense que la deuxième étape, c'est de réfléchir à votre voiture. C'est quelque chose qui vous coûte extrêmement cher, jusqu'à un tiers du budget des Français. Enfin, la moyenne, c'est ça, c'est un tiers du budget des Français.
Je crois qu'on a calculé 36 000 francs par an. Hein? 36 000 francs par an.
Oui, donc on passe à peu près, par rapport au salaire moyen, ça fait un tiers. Hein. On passe un tiers de notre temps à travailler uniquement pour payer la voiture qui est indispensable pour aller travailler. Donc, personnellement, ça fait 20 ans que j'ai plus de voiture et je vais travailler à pied parce que je me suis débrouillé pour ne pas habiter trop loin de là où je travaille. Bon, tout le monde ne peut pas faire ça puisqu'on est deux dans une famille, donc il faut trouver un compromis entre généralement, il y a deux lieux de travaux, on ne travaille pas au même endroit, donc il faut trouver un compromis. Mais déjà, si vous avez deux voitures dans la famille, parce que chacun va travailler dans un lieu différent, là, il y a une erreur. Donc vous pouvez déjà en supprimer une en réfléchissant un petit peu. Le cercle vertueux, effectivement, pour éviter le phénomène du rebond dont a parlé François Schneider, c'est de dire, si effectivement j'arrive à supprimer une ou deux voitures, il faut absolument que je ne dépense pas l'argent que j'ai économisé. Donc, il faut essayer aussi de trouver des métiers qui sont des métiers où on peut travailler de moins en moins. Et beaucoup d'entre nous n'ont pas le choix, ils sont obligés de faire 35 heures, ce qui n'est pas mon cas, et je refuse de militer pour les 35 heures, vu que je ne les ai jamais fait. Donc, je trouve que c'est beaucoup trop. Voilà. Après, tout à l'heure, Ruth a dit qu'elle avait des problèmes de désœuvrement. Alors ça, je ne sais pas comment on fait. Moi, je retourne la question aux gens qui bossent 35 heures, 40 heures, les cadres dynamiques qui montent à 50 heures par semaine. Moi, personnellement, je ne sais pas comment ils font. Parce que moi, du temps libre, j'en ai pas. Et pourtant, je bosse que 27 heures. Alors, je ne sais pas comment ils font. Moi, je ne sais pas. J'ai jamais le temps de lire les bouquins que je reçois. J'ai jamais le temps de jouer avec les gamins. J'ai jamais le temps d'aller au cinéma. J'ai pas le temps de consommer, quoi. Je veux dire, c'est terrible. Donc, les gens qui travaillent encore plus, je ne sais même pas comment ils font pour dépenser leur argent, parce qu'ils n'ont plus de temps du tout. Alors, je ne sais pas où se trouve l'équilibre. Il y a un déséquilibre évident là-dedans, sur les deux choses. Donc voilà, moi je gagne peu d'argent, je travaille peu, mais j'ai pas de temps par contre, alors ça, rien à faire. Hein. Bon, j'en arrive à la différence entre les villes et les campagnes. Il faudrait que je trouve des avantages à la ville. Il y en a quelques-uns quand même. Un des avantages de la ville, c'est les déplacements. Donc au niveau des déplacements, il y a quand même la moitié des Parisiens qui n'ont pas de voiture. Parce qu'il y a un réseau de transport en commun, il y a le métro, qui permet effectivement, dans Paris, on n'a absolument pas besoin d'une voiture dans Paris. Les voitures, les convois dans Paris, si vous regardez les plaques d'immatriculation, sont quand même, c'est des 91, 92, etc. C'est pas tellement des 75, il y a beaucoup moins de 75. Il y a plus de la pointe. C'est le département où il y a le moins de voitures par habitant, hein, faut le savoir. Bon, en ville, ici, dans une grande ville comme Lyon, c'est pareil, il y a suffisamment de métro et de moyens de transport. On peut déjà... utiliser les transports en commun, et puis ceux qui veulent être encore plus indépendants, tant pis pour les maillons de chaîne qui viennent d'Inde, mais vous pouvez aussi rouler en vélo, et puis aussi marcher à pied. La marche à pied, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple, et de plus fructueux, je dirais, sur le côté spirituel. Le deuxième avantage que je vois à la ville, par rapport à la campagne, c'est les économies d'énergie, puisque plus les gens habitent les uns sur les autres, et moins ça consomme, en principe. Alors évidemment, c'est un avantage écologique, c'est pas un avantage sociologique. Donc, il y a un troisième avantage qu'on nous dit pour la ville, c'est les relations sociales, puisque nous avons des voisins qui sont très près, donc normalement, on connaît très bien nos voisins, on discute avec eux, on les rencontre, on fait la fête ensemble, et ça se fait tous les jours. Et puis après, on s'aperçoit que tous les vieux, ils meurent, et que personne s'en aperçoit. D'où aussi un léger truc contradictoire sur la ville, donc j'aurais du mal à le défendre aussi. Mais je tiens à signaler que dans notre immeuble, nous faisons une fête par an des gens, et je connais à peu près les activités des 28 copropriétaires avec qui je partage l'immeuble. Donc c'est quand même possible de faire des choses en ville. Et c'est pas très compliqué, hein. On a mis une affiche une fois en bas de l'immeuble, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma femme, et en disant, les étages pairs, vous amenez un plat sucré, les étages impairs, vous amenez un plat salé, et on se partage les boissons. Et le plus dur, ça a été de descendre des tables dans la cour, moyennant quoi, ça a très bien marché, il y a 100 habitants à peu près dans l'immeuble, et on était 70 à la fête. Bon, on l'a fait 2 ans de suite, et après on a essayé de demander, est-ce qu'un autre étage organise la fête, et depuis ça se refait plus. Donc ça tient pas à grand chose que ça se fasse ou que ça se fasse pas. L'anonymat en ville, c'est quand même un paradoxe que j'aimerais bien que des sociologues m'expliquent, parce que comment ça se fait qu'on soit aussi nombreux, aussi près les uns des autres, et qu'on ne se connaisse pas? Et je pense qu'une des tares de la ville, justement, c'est que comme il y a des facilités de déplacement, on choisit des amis qui sont éloignés, et par affinité, et on ne s'occupe pas des gens qui habitent sur son palier. Donc là, il y a un équilibre à trouver qui n'est pas évident, et peut-être que si on supprimait les voitures qui permettent de traverser la ville en 5 minutes, on s'intéresserait plus au vieux qui est en train de mourir de chaleur dans l'appartement d'à côté. La voiture tue donc de manière très indirecte, par la pollution, par les accidents, et là, elle tue en créant de l'anonymat dans la ville, en faisant du zonage, ce qu'on appelle du zonage dans la ville, à savoir il y a un quartier de bureau, un quartier d'habitation, un quartier de loisirs, chaque quartier a sa fonction, et on monte dans sa voiture, et on change de quartier selon les heures. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avantage pour la ville? Après, il y a beaucoup d'inconvénients pour la ville. Par exemple, la ville, c'est le seul secteur où l'air, qui est le premier besoin dont on a, enfin, c'est marrant parce que quand j'ai entendu ce matin la personne italienne, je ne crois pas qu'elle ait signalé la respiration comme étant un besoin fondamental. On a commencé à l'eau. Mais la difficulté, quand même, c'est de respirer d'abord, parce qu'en 5 minutes, on peut mourir. Là. Et ceux qui étaient en ville au mois d'août à Lyon, ou dans des villes où il faisait 45 degrés, savent ce que c'est que de manquer d'air. Or, l'air, pour le moment, c'est encore un bien public, comme disent l'attaque. Mais ça va se privatiser aussi, et ça se privatise déjà, ça s'appelle la climatisation. Et je vous signale qu'au Japon, il y a des bars à air où les gens, avant de crever, ils rentrent dans le bar, ils mettent des sous dans une fente et ils se mettent un masque à gaz sur la figure, ils respirent un grand coup. Donc ça va arriver ici dans quelques années, je pense que ça va être très bien. Alors ça, c'est pas un avantage. Donc là, il y a quand même un gros, je dirais, il y a une grosse difficulté pour la ville, c'est que l'air est en train de devenir un bien marchand, alors qu'à la campagne, pour le moment, c'est encore gratuit. Pour l'eau, ça fait longtemps qu'on paye en ville, mais maintenant, ça y est, grâce aux directives européennes, vous avez l'obligation à la campagne d'avoir un compteur d'eau, et dans 2-3 ans, la directive impose qu'on facture tout le monde, y compris les paysans qui arrosent leur maïs. Et ceux qui font leur jardin, ça va leur faire un changement fondamental, parce qu'un jardin, c'est bien de jardiner, mais ça coûte beaucoup d'eau. Alors là, on est en train de perdre une différence entre la campagne et la ville. Le troisième besoin, c'est la nourriture. Donc là, évidemment, la ville, on est complètement handicapé. Il y a bien quelques personnes qui font des jardins sauvages ou des jardins en banlieue ou des jardins ouvriers. Il y a quelques jardins collectifs. Mais globalement, pour la nourriture, on est totalement dépendant de la campagne. Je crois d'ailleurs que c'est le plus gros obstacle à la ville. C'est que la ville, d'un côté, a besoin de la campagne pour se nourrir. Et elle a aussi malheureusement besoin de la campagne pour éjecter ses déchets. Donc c'est pas un écosystème. C'est-à-dire que le mythe du discours sur les écocités ou la ville écologique, ça n'existe absolument pas, ou alors ça serait une ville où il y aurait une quantité de champs dans la ville qui serait absolument extraordinaire. Actuellement, la ville telle qu'elle est conçue aujourd'hui ne peut pas produire sa nourriture. Un dernier besoin, c'est le besoin de se reposer, c'est-à-dire le logement, et là aussi, en ville, ça coûte généralement plus cher qu'à la campagne. Bon, mais c'est pas, à la limite, c'est pas gênant que tout soit plus cher, puisque le but, c'est de consommer moins, donc à la limite, on peut dire qu'un avantage de la ville, c'est que comme ça coûte cher, on dépense moins, on consomme moins. C'est une façon de voir. Il y a une autre chose qui est très marchandisée en ville, c'est la culture. Mais pas l'agriculture, la culture. On nous dit que la ville, le principal avantage de la ville, c'est la rencontre des gens au niveau des cultures. Mais la culture en ville, elle est payante. Elle est pratiquement toujours payante. Et je pense qu'entre une fête qui se fait dans une communauté de l'Arche, ou une fête qui se fait à l'Opéra de Lyon, où ça coûte je ne sais pas combien, mais ça doit être au moins 40 euros l'entrée pour rentrer dans ce bâtiment, il y a une différence énorme. Donc là, par contre, je dirais une démarche de simplicité volontaire peut permettre, même en ville, de créer de la culture gratuite, on pourrait appeler ça de la culture biologique. Il n'y a pas tellement de difficultés d'organiser des repas de quartier, de faire des fêtes, des street parties, comme ils disent en Grande-Bretagne, c'est-à-dire on s'impose dans une rue, on met une barrière de chaque côté où ce qu'on trouve pour bloquer la rue, et pendant la journée, on fait la fête avec tous les gens qui veulent participer. Généralement, c'est un très bon lieu pour discuter avec des voisins qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, là, on sort de l'immeuble, on fait que ça dans la rue. Et c'est vraiment par rapport à la discussion de comment faire de la politique, je pense que c'est vraiment, enfin, la street party, c'est vraiment, ou la fête d'immeuble, ou la fête de quartier, ou le repas de quartier. Enfin, toutes ces initiatives qui sont des initiatives culturelles gratuites, c'est vraiment un très bon moyen de discuter avec les gens avec qui on n'arrive pas à discuter et avec qui c'est nécessaire de discuter, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas convaincus, qui viennent par curiosité ou par goût de la gastronomie ou pour parce qu'il y a de la musique. Et là, c'est vraiment une très bonne porte d'entrée et qui a l'avantage d'être gratuite. Et ça, c'est plus facile à la limite à faire en ville qu'à faire la campagne. Pour une fois, on a un avantage. Voilà. Alors maintenant, je voudrais faire aussi une distinction parce qu'on a beaucoup parlé quand on parle de là où est-ce qu'il faut faire des économies, là où il faut décroître, il y a des fausses pistes aussi. Alors j'en avais repéré deux, par exemple. Pour m'amuser, je dis toujours que j'ai acheté mon appartement et je loue ma voiture. Ce qui est un moyen de s'enrichir. Parce que, une fois qu'on a fini de rembourser les emprunts de son appartement, qui coûte à peu près le même prix qu'un loyer, au bout d'un certain temps, vous vous retrouvez avec de l'argent, puisque être propriétaire en ville, ça coûte 5 fois moins cher à peu près qu'être locataire. Ce qui vous donne une idée de ce que se met dans la poche, d'ailleurs, au passage, le propriétaire. Et la voiture, c'est le contraire. C'est-à-dire que si vous avez une voiture qui sert peu, moi, j'ai calculé que la limite, ça faisait autour de 50 jours. Déjà, utiliser une voiture 50 jours dans l'année, c'est pas mal. Si vous l'utilisez moins de 50 jours, vous avez tout à fait intérêt à la louer. Donc on pourrait croire qu'on fait de la décroissance dans cette démarche, mais pas du tout. Parce que je la loue, que je l'achète ma voiture, de toute façon, elle pollue autant. Et mon appartement, je dirais que je le loue, que je l'achète, c'est pareil, ça ne change rien. Ça change mon revenu et ça change l'effet rebond. Parce qu'effectivement, si j'économise sur la voiture et l'appartement, j'ai le moyen de dépenser ailleurs. Donc ça, c'est vraiment des fausses pistes. Et quand je lis par exemple une revue comme Que Choisir, c'est un journal qui est spécialisé dans les fausses pistes. C'est vraiment extraordinaire. Celui qui a parlé du boycott mondial, s'il lit l'anglais, je lui conseille de lire Ethical Consumers, qui est l'équivalent, le faux équivalent de Que Choisir en Grande-Bretagne, pour mesurer la distance qu'il y a entre les associations de consommateurs britanniques et les françaises. C'est absolument sidérant. C'est-à-dire que eux, pour tout produit qu'ils présentent, ils vous présentent pas un produit en disant ça consomme tant, ça vous coûte tant et meilleur rapport qualité-prix. C'est ça, non, ils vous disent il a fallu tant d'énergie pour fabriquer ce truc-là, il a fallu tant de matières premières pour fabriquer ça, et actuellement, voici les critiques qui ont été émises par des associations. Et là, vous en avez toute une tartine avec ce produit est boycotté par machin parce qu'il y a exploitation du travail forcé dans les pays du Sud, parce que cette firme vend ses produits à l'armée, parce que, enfin, il y a tout un tas de raisons, vous êtes d'accord ou pas, et comme ça, en fonction des critères où vous êtes d'accord, vous allez regarder dans la liste, et vous dites, bon, bah, effectivement, je vais plutôt acheter ce produit-là que l'autre ou pas. Enfin, par rapport à Que Choisir en France, on est à des kilomètres, quoi. Alors maintenant, le moyen de progresser que moi j'ai trouvé et que j'applique le mieux, je dirais, dans ma vie, ça s'appelle, c'est quelque chose qui est gratuit, qui coûte rien, il n'y a pas d'effet rebond, ça s'appelle le rêve. Moi, quand j'ai du temps libre, je me couche sur mon divan, j'habite au dernier étage, par la fenêtre, je vois les nuages qui passent et je regarde passer les nuages. Ça coûte rien, ça pèse rien sur la. Ça ne demande aucune planète supplémentaire. Et alors, si vous savez le nombre de choses qui vous viennent en faisant rien, c'est absolument extraordinaire. Et les gens me demandent toujours, mais t'as toujours des idées pour faire silence, ça fait 20 ans que ça dure. Je dis, bah oui, c'est pas compliqué, il suffit de rien faire pour trouver des idées. Alors pour terminer, je voudrais vous parler d'un article qu'on a fait dans Silence, suite au colloque qui a été fait à l'UNESCO, qui a été fait par Alain-Claude Gattier, qui s'appelle « Sous la tribune, la vie ». Pour ceux qui ne l'ont pas lu, en gros, le reproche qu'il faisait, c'est que quand on fait des colloques, il y a toujours des gens, les chefs, là, qui sont à la tribune, qui ont le droit de parler, et ceux qui sont dans la salle, au mieux, ils ont le droit de poser une question au chef. Alors moi, personnellement, ça m'énerve beaucoup, donc je profite, je suis le dernier à parler, alors j'en profite, pour dire que c'est malheureusement un calcul qui est inéluctable. À partir du moment où on est plusieurs centaines, on peut plus se mettre en rond, et donc on crée une hiérarchie. C'est un problème systématique, d'ailleurs, si vous voulez créer une coopérative. L'autogestion, ça marche jusqu'à 20, 30 personnes, et après, généralement, ça marche plus. Une communauté, si vous voulez pas qu'il y ait de gourous, c'est pareil, il faut pas qu'il y ait beaucoup de gens. Enfin, le problème de la taille, il est fondamental dans la réflexion. Et donc, le problème, c'est que, comme on a dit, il y a une urgence parce que soit on est déjà dans le mur, soit on va y rentrer dans pas longtemps. Donc, il faut que le message passe le plus vite possible. Et de l'autre côté, l'efficacité, c'est le contraire de la démocratie quelque part. Donc, moi, ce que je vous incite à faire, parce qu'il y a déjà des gens qui nous ont demandé, mais qu'est-ce qui va se passer après? Comment on correspond? Donc, moi, je m'occupe d'une revue qui s'appelle Silence, mais il y a également l'écologiste, enfin, il y a d'autres revues. Il faut jamais hésiter à écrire, à proposer des articles, à faire des courriers des lecteurs, enfin, ça dépend de la longueur que vous avez. Si c'est pas l'écriture qui vous passionne, il y a également des gens qui chattent sur Internet, il y en a d'autres qui font des radios libres, et il y a quand même X méthodes pour communiquer, il faut pas se sentir frustré, il faut se dire que le colloque c'est un passage qui est obligatoire de temps en temps. De le fait de passer à l'hôtel de ville, ça a des conséquences, effectivement, c'est qu'il y a 160 000 personnes qui ont acheté Libération hier et qui ont lu une page sur la décroissance. Bon, c'est un des rares intérêts, je dirais, de faire une belle salle comme ça et de se mettre à l'hôtel de ville. Mais personnellement, ce n'est pas ma tasse de thé non plus. Et moi, je vous incite à faire des initiatives locales et à utiliser les réseaux, qu'ils soient papier, informatique ou ce que vous voulez, pour faire circuler, parce qu'il y a des idées partout, et moi quand je vois un colloque comme ça, ce qui me frustre, c'est que je me dis, là j'ai un tas d'or, j'ai des gens qui sont très riches, et il y en a plein, je ne vais même pas les avoir entendus une seule fois dans le week-end, je ne sais même pas ce qu'ils font, il y a des gens qui sont ici, dont je connais le nom, parce qu'ils ont déjà écrit dans le silence, que je n'ai même pas repéré, parce qu'effectivement on n'a même pas d'autres noms marqués ici. Donc voilà, alors n'hésitez pas à écrire, à vous plaindre et à intervenir, et surtout prenez le temps de rêver avant d'écrire, vous allez voir, vous allez sortir des idées super. Voilà.